9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Elle était là depuis si longtemps, fichée, prise dans son rocher de Rocamadour. Et voici qu'en juin dernier, Durandal a été volée. Mais oui, le maire de la commune, M. L'Enfant, déclarait tout ému au journal local « Rocamadour se sent dépouillé d'une partie d'elle-même. Les destins de notre village et de cette épée sont liés. Durandal, l'épée de Roland, l'arme mythique du chevalier carolingien avec l'olifant, a fait partie de ses attributs dans la plus célèbre des chansons de gestes. Elle appartient à l'imaginaire collectif comme la belle Angélique ou le traître Ganelon. Plusieurs failles et accidents dans nos roches montagneuses portent encore le nom de pas de Roland, de brèche de Roland, ça doit vous dire quelque chose. Oui, le héros mort à Roncevaux est sans doute le plus fameux de tout l'Occident médiéval. Mais d'abord, est-ce que ce chevalier Roland a véritablement existé? Il se trouve que une chronique officielle de l'époque carolingienne s'appelle les Annales royales. Cette chronique rapporte un événement survenu le 15 août 778. Je dis bien l'an 778. Il est fait mention d'un certain Rolandus, préfet de la Marche de Bretagne, qui est tué dans l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne par des montagnards basques, les fameux Vascons, vous savez, dans les Pyrénées. Ça tendrait à confirmer l'existence donc d'un véritable Roland le Preux, un chevalier franc mort donc en 778 à Roncevaux. Vous allez me dire, ça aurait été difficile avec tout cela de marquer définitivement les esprits. C'est bien sûr la chanson de Roland, un ouvrage composé seulement au XIe siècle, c'est-à-dire plusieurs siècles après la mort de ce véritable chevalier Roland. C'est la chanson de Roland qui va faire du personnage un héros de légende. Il est présenté comme un des preux, le neveu de Charlemagne, et dans cette épopée, la simple échauffourée des Pyrénées à Roncevaux est en train de devenir alors tout autre chose. C'est un affrontement épique entre les chevaliers chrétiens de Charlemagne et leurs ennemis sarrasins musulmans. Plus tard, à la Renaissance, un grand poète, l'Arioste, en fera le protagoniste de son Rolando Furioso. Autant dire que Roland va devenir un des grands personnage, une des grandes figures de l'Occident chrétien.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
La chanson de Roland d'abord, c'est une des plus célèbres chansons de gestes, bien sûr, composée, je vous l'ai dit, à la fin du XIe siècle en langue d'oïl. L'auteur est anonyme, poème épique qui fait environ 4000 vers, vous imaginez, et certains des trouvères connaissaient cet immense poème par cœur, un des premiers monuments de la littérature française. Et l'histoire de cette chanson de gestes raconte que Charlemagne est en train de mener depuis 7 ans en Espagne une guerre contre les Sarrasins. Vous comprenez bien qu'on est à l'époque des croisades, bien sûr, et que cet affrontement entre chevaliers chrétiens et guerriers musulmans est essentiel, bien sûr. Donc on va lui trouver une racine mythique, si je puis dire. Le seul roi musulman qui résiste encore, c'est Marsile, souverain de Saragosse, qui est désespéré. Il envoie des messagers proposer une paix. La condition, c'est que Charlemagne retire ses armées. Marsile est bien décidé par ailleurs à ne pas tenir sa promesse de conversion au christianisme. Enfin bon, bien, vous vous en doutez. Charlemagne va recevoir donc les émissaires de ce souverain de Saragosse. Sous un pin, près d'un églantier, un trône est dressé tout d'or pur. Là est assis le roi qui tient douce France. Sa barbe est blanche et tout fleurit son chef. Son corps est beau, son maintien fier. À qui le cherche pas n'est besoin qu'on le désigne. Il est là, Charlemagne, on ne voit que lui. Et il accepte d'envoyer pour négocier un émissaire. Roland va proposer son beau-père, Ganelon. Ganelon est furieux de ce choix. Il est bien décidé à comploter avec les Sarrasins. Et lorsque l'armée franque va se retirer, eh bien, l'arrière-garde qui reste seule, qui est menée par le fameux Roland, c'est cette arrière-garde qui va tomber dans une embuscade. Vous imaginez la tristesse de Charlemagne. Les 12 pères sont restés en Espagne, en leur compagnie 20 000 Français, tous sans peur et qui ne craignent pas la mort. L'empereur s'en retourne en France. Sous son manteau, il cache son angoisse. L'arrière-garde est donc attaquée par toute cette armée sarrasine, au moins 100 000 hommes. Comment voulez-vous que cette arrière-garde s'en sorte ? Elle n'a aucune chance. Et l'un des preux, qui s'appelle Olivier, demande à Roland de sonner de son corps, de son olifant précisément, afin que Charlemagne puisse les entendre, fasse demi-tour avec l'intégralité de l'armée franque pour venir leur porter secours. Mais Roland refuse. Honni le cœur qui, dans la poitrine, s'acquardit, c'est-à-dire perd sa force, sa confiance et son courage. À ces mots, les Français poussent le cri d'armes. Qui les eût, oui, crié « Montjoie » aurait le souvenir d'une belle vaillance. Ah, oh, ça va être un sacré massacre des deux côtés. Du reste, tant de bons Français qui perdent leur jeune vie. Ils ne reverront plus leur mère, ni leurs femmes, ni ceux de France qui au port les attendent. Olivier est furieux, il accuse Roland, qui se décide enfin à sortir son olifant. Le comte Roland, à grand effort, à grand ahan, très douloureusement sonne son olifant. Par sa bouche le sang jaillit, clair, sa tempe se rompt, la voix de son corps se répand au loin. Charles l'entend et fait demi-tour. À quoi bon les paroles, ils ont trop tardé. À quoi bon les prières? Elles ne leur servent de rien. Ils ont tardé. Ils ne peuvent arriver à temps. Et tous les compagnons de Roland, quand arrive l'armée franque, sont là, qui sont morts les uns après les autres. Roland sent que sa mort est prochaine. Par les oreilles, sa cervelle se répand. Il craint que son épée Durandal ne tombe dans les mains ennemies. Il va tenter de la briser, cette épée, qui est un cadeau de Charlemagne, et le symbole de la mission divine qui lui était échue et du destin qui était le sien. Défenseur de la foi chrétienne, pas moins. Ah, Durandal, que tu es belle et sainte, ton pommeau d'or est plein de reliques, une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile et des cheveux de Monseigneur Saint-Denis et du vêtement de Sainte-Marie. Devant lui est une pierre brune, il y frappe 10 coups, plein de deuil et de rancœur. L'acier grince, il ne se brise ni ne s'ébrèche, et Roland frappe encore et encore, et c'est ainsi, dit-on, que se serait ouverte la fameuse brèche de Roland. La somptueuse ouverture de l'Orlando Furioso de Vivaldi par l'ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi.
Vous écoutez Radio Classique.
Le gentil comte est mort en vainqueur d'une certaine manière par le courage qu'il a manifesté, même s'il a été avec toute son arrière-garde massacré dans ce défilé pyrénéen de Roncevaux. Et ce personnage va faire l'objet de toutes sortes de légendes, légendes populaires, mais aussi grands récits de cour. Il est ce chevalier exemplaire, il est ce symbole des combats de la chrétienté contre les Maures. Il ne faut pas oublier tout ce qui se passe dans les différents siècles qui vont suivre, notamment avec les croisades à partir du Xe siècle. À la Renaissance, l'image de Roland est encore dans tous les esprits, et notamment à Ferrare, à la cour des ducs d'Est. Il va prendre une nouvelle dimension sous la plume d'un poète qui s'appelle Matteo Maria Boiardo, qui va écrire un poème épique, Roland amoureux, en italien Orlando innamorato. Et le poème reste inachevé en 1494 et il mêle l'amour, l'aventure, la chevalerie dans un univers peuplé de personnages fantastiques. Le paladin devient plus humain d'une certaine manière, il est sujet à des passions, il est pris dans les conflits de l'amour et du devoir. C'est un petit peu presque Corneille avant la lettre. Lorsqu'Angélique, qui est la fille du roi du Katai, autrement dire une province du nord de la Chine, lorsqu'Angélique fait irruption à la cour de Charlemagne, sa beauté est si extraordinaire que tous les chevaliers tombent amoureux d'elle. Et il y en a plusieurs, notamment Renaud, qui vont se lancer à sa poursuite. Il y a aussi des Sarrasins, et puis Roland, bien sûr. Pendant tout le poème, Angélique n'aura de cesse d'user de ses charmes et de sa ruse pour manipuler à son avantage tous ceux qui lui courent après, dont Roland. Et la passion du paladin est d'autant plus intense qu'il a bu par hasard à une fontaine qui le rend fou amoureux. Il y a un petit côté Tristan, si vous voulez. Angélique, de son côté, a pour lui la plus totale aversion parce que justement, elle a bu, elle, à la fontaine inverse, si vous me passez l'expression. Et Roland va quitter la cour de Charlemagne pour poursuivre sa belle, se battre avec d'autres chevaliers, notamment Ferragus, terrible sarrasin, pour la possession d'Angélique. Mais tout ça, toujours vain, parce qu'elle arrive toujours à s'éclipser, elle a toutes sortes de subterfuges. Il lui arrive également de nombreuses aventures fantastiques. Roland, par exemple, se retrouve errant dans une forêt magique qui remplit de pièges. Il est soumis à des épreuves avec beaucoup de clins d'œil aux grands récits de l'Antiquité. Il croise notamment le sphinx, qui lui pose la question posée à Œdipe. Seulement, Roland, qu'est-ce que vous voulez, n'est pas un lettré. Il se contente d'embrocher le sphinx. Lui, c'est une autre vision des choses. Bref, il est prêt, tout prêt même, à se mettre au service d'Angélique quand celle-ci doit se réfugier dans une forteresse et subir un siège pour fuir d'autres prétendants. Je passe quelques détails. Mais malgré sa bravoure, sa fureur, il sortait des étincelles de feu par la visière de son casque, dit le poème. Il n'aura pas la gratitude d'Angélique Roland. Et pendant ce temps, les Sarrasins, qui sont menés par le roi Agramant, vont lancer un assaut contre Paris. Charlemagne se sent trahi par son neveu, qui devrait plutôt être là, à côté de lui. L'absence de son meilleur guerrier l'affaiblit, et c'est là que Boiardo interrompt le poème. Il laisse la situation en pleine confusion, mais d'autres vont s'emparer du récit, n'est-ce pas ? Et notamment le célèbre Ludovico Ariosto, celui que nous appelons, nous, en France, l'Arioste, qui va reprendre les aventures de Roland là où Boiardo les avait laissées. Et il va conclure tous ces fils narratifs laissés un petit peu en suspens par son devancier. Il termine son poème en 1516. Il le dédie au cardinal d'Est. Notamment, c'est lui, vous savez, qui a fait bâtir ces fantastiques jardins de Tivoli. L'Orlando Furioso sera une des œuvres les plus importantes de toute la littérature renaissante, avec des personnages qui prennent là un relief incroyable. Le poème est très long, il est plein d'humour, il est même un peu coquin parfois, avec des touches qu'on pourrait qualifier quasiment de féministes. Deux des héroïnes sont des chevalières, Marfise et la célèbre Bradamante. Au début du poème, les combats font toujours rage aux portes de Paris. Charlemagne est furieux d'avoir été donc abandonné. Il faut dire que Roland est capable de détruire à lui tout seul les troupes des morts. Et donc, son absence se fait sentir, bien sûr. Sauf que, sitôt venu au secours de son oncle, il s'empresse de repartir chercher Angélique, alors même que les morts donnent l'assaut. Et pendant cette bataille, il y a un jeune mort qui s'appelle Médor qui va être blessé. Et arrive à ce moment-là Angélique qui va tomber sous le charme de ce beau jeune homme bouclé, presque encore un adolescent. Elle essaie de le soigner, il se réfugie chez des bergers, elle lui offre finalement ce qu'elle avait refusé à tous les paladins là, depuis le début de l'histoire. Je cite le poème de l'Arioste. Angélique laissa cueillir à Médor la première rose, non encore effleurée, du beau jardin où personne n'avait été assez heureux pour mettre les pieds. Afin de légitimer sa faiblesse, on célébra les saintes cérémonies du mariage, sous les auspices de l'amour et avec la femme du berger pour marraine. Ah, c'est le grand amour, Médor et Angélique gravent leurs noms enlacés un peu partout sur les rochers, sur les arbres. Autant vous dire que Roland, Orlando, ne va pas être très content. Sortez pour jamais les premières mesures du chœur de Jean-Baptiste Lully dans son Roland, bien sûr. Les talents lyriques étaient sous la direction de Christophe Rousset.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Chaque lettre dont ses noms sont formés est comme un clou avec lequel amour lui perce et lui déchire le cœur. Voilà comment l'Arioste nous décrit la situation de ce Roland qui croit mourir de douleur, qui va jeter son armure et ses armes sur le sol, dont Durandal, hein, bien entendu, qui est toujours là, évidemment. Et puis, nous dit l'Arioste, il déchire ses vêtements et ce nom et se montre nu. À nu son ventre velu, sa poitrine et son dos. Et alors commence la grande folie si horrible que jamais personne n'en verra de semblable. Il va déraciner des arbres séculaires et commencer à s'en prendre à tous ceux qui passent. Alors là, les humains, les animaux, tout y passe. Un pasteur essaie de s'enfuir. Il en saisit un et lui arrache la tête avec la même facilité qu'on cueille une pomme à l'arbre ou une fleur épanouie sur le buisson. Vous voyez un peu la colère d'Orlando. Depuis que cette fureur le possédait, il était toujours allé nu, à l'ombre et au soleil. Ses yeux étaient quasi cachés dans sa tête. Il avait la figure maigre et décharnée comme un os, la chevelure inculte, hirsute et en désordre, la barbe épaisse, épouvantable, hideuse. Et dès que Roland, dans sa folie, l'eut aperçu, il eut aperçu Angélique, hein, bien sûr. Il se leva d'un bond pour la saisir, tellement son gracieux visage lui plut et tellement l'appétit lui en vint subitement. De l'avoir tant aimé et respecté, aucun souvenir ne lui restait plus. Il court derrière elle, à la façon d'un chien qui poursuivrait une bête fauve. Oui, il est, vous l'avez bien compris, c'est toute l'histoire que nous raconte l'Arioste. C'est une forme de retour à l'état de nature, et pire que cela même, à une forme de sauvagerie. Et une fois encore, Angélique ne va devoir son salut qu'à son anneau magique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Un des paladins de Charlemagne, qui s'appelle Astolphe, s'est lancé dans une grande quête pour sauver Roland. Et pour ça, il dispose notamment d'un hippogriffe. Un hippogriffe, c'est une sorte de cheval volant qui permet de se rendre où l'on veut, par exemple jusqu'en Éthiopie. Astolphe va parvenir à convaincre le roi d'Éthiopie de lui apporter l'aide de ses armées. Et puis il repart, il se pose sur la cime d'une haute montagne. Il est totalement guidé par Dieu dans cette grande quête, bien sûr. Et il va découvrir là qu'il est carrément au paradis terrestre. Et un vieillard l'aborde, et le vieillard en question, c'est l'évangéliste Jean. J'espère que vous suivez toujours, parce que là, vous voyez que nous sommes partis dans des histoires échevelées. Voici ce que dit l'évangéliste Jean. « Votre Roland, à qui Dieu a donné dès sa naissance une force extraordinaire en même temps qu'une grande vaillance, auquel il a concédé le don surhumain d'être invulnérable afin qu'il servit de défenseur à la sainte foi, de même qu'il constitua jadis Samson pour défenseur des Hébreux contre les Philistins, votre Roland a mal récompensé son Seigneur de tant de bienfaits, et en abandonnant le peuple fidèle, au moment même où il aurait dû lui venir le plus en aide, l'incestueux amour d'une païenne l'a aveuglé. » Mais il y a quand même un moyen de rendre à Roland la raison qui, vous l'aurez compris, lui fait maintenant défaut. Elle se trouve sur la Lune, où les deux hommes vont se rendre toujours grâce à cet animal étonnant, et puis aussi grâce au char qui autrefois avait enlevé Élie. Il ne faut pas manquer d'imagination. Le saint apôtre le conduisit dans un vallon resserré entre deux montagnes. Là, ô merveille, était rassemblé tout ce qui se perd par notre faute, ou par la faute du temps ou de la fortune. Tout ce qui se perd là-bas se retrouve là-haut. Ça, c'est une autre légende médiévale. Et dans une fiole, Astolphe va trouver et remporter le bon sens de Roland. Et sur la côte d'Afrique du Nord, il va retrouver Roland, qui, entre parenthèses, a traversé le détroit à la nage, mais oui, ça ne l'arrête pas. Et il réussit, non sans mal, à le maîtriser comme un taureau furieux, Orlando Furioso. À peine Roland est-il revenu dans son premier état, plus sage et plus sain d'esprit que jamais, qu'il se sent guéri de son amour, et Durandal lui est restitué. Et le cours de la guerre de Charlemagne contre les morts, qui a été bouleversée, va pouvoir reprendre. Durandal a été restitué à Roland, à nous, elle a été volée.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Julia Lebrun de nous avoir une fois de plus ouvert les portes des grandes légendes. Et à propos de légendes, voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Bon, vu mon grand âge,
non, vu votre grande notoriété,
vous avez l'art de la diplomatie, mon cher Franck. Bonjour et bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous allons mettre en vente un anneau magique au nom de Radio Classique. C'est-à-dire que grâce à cet anneau magique, eh bien, pour vous le procurer ou le gagner, selon quelques jeux, peut-être, sait-on jamais, eh bien, vous pourrez entendre Franck Ferrand où que vous soyez. Ça s'appelle l'adaptation de Radio Classique.
Ça s'appelle une malédiction, ce que vous êtes en train de décrire.
Non, en quelque sorte. Non, pas du tout. Alors, cet après-midi, ça va faire plaisir à Mathéo, qui est derrière la vitre, notre réalisateur, ce matin, parce que vous allez nous emmener autour des guerres d'Italie à 14h.
Oui, on restera un peu dans la même ambiance, pour tout.
Oui, voilà. Mais pas à la nage. Dites-moi, Roland, il était quand même gonflé de pouvoir traverser comme ça à la nage. C'est passionnant toujours de vous écouter chaque matin, et à 14h bien sûr, en vous souhaitant un excellent week-end, et puis on se retrouve lundi à 8h moins 5 déjà avec David Abiker.
À lundi avec joie.